4 mois d'atermoiement, à considérer comme un succès d'avoir la vie sauve, ne serait-ce que pour une heure. Je n'ai jamais reçu d'enseignement philosophique aussi radical. On nous apprend à tous le fameux carpe diem. Nous avons beau l'approuver, nous ne l'appliquons jamais. À Stanleyville, il m'a été donné de le vivre corps et âme, de me coucher à terre, sous le ciel, de jubiler, de respirer, de sentir l'odeur forte des fientes d'oiseaux, de regarder le réel, d'écouter l'air. Pourquoi avoir d'autres désirs? Quand je dormais, le passé me rattrapait. Dans mes rêves surgissaient Daniel, André, ma mère, le pont-doie. Au réveil, je pratiquais le refoulement actif, m'inventant des ruses pour ne pas m'infester d'espoir inutile. Une nuit, j'ai rêvé du bateau ivre et je me suis éveillée en prononçant les vers « Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash, noire et froide. » Je me tus comme si j'avais prononcé une parole interdite. Il advint que le président Gbenye me demanda mon opinion sur Patrice Lumumba. C'était la question la plus dangereuse qu'il puisse me poser, puisqu'il en avait trahi la pensée et l'action. Si j'avais pu répondre librement, j'aurais dit la sympathie profonde que m'inspirait ce personnage, qu'au demeurant, je n'avais jamais rencontré, et la colère qu'avait suscité en moi son assassinat. Gbenye avait été un proche de Lumumba. Quand lors des palabres, les rebelles évoquaient la figure de Lumumba, c'était avec tant d'équivoques que je mesurais leur peur à l'idée d'indigner Gbenye. Lumumba semblait pour eux le martyr encombrant qu'on ne peut ignorer. Lorsque l'abbé Bernanosien tense le jeune prêtre, il lui dit « Dieu nous préserve des saints ». Bref, je répondis avec prudence, c'est un personnage intéressant. Je n'ai pas eu l'honneur de le connaître. Vous qui l'avez côtoyé, que pensez-vous de lui, monsieur le président? Gbenye eut une réplique ironique et équivoque, digne des casuistiques les plus jésuites. Adorait-il ou haïssait-il Lumumba? Son propos autorisait les deux hypothèses. Assassiné en 1961, dans sa grande jeunesse, Lumumba avait le visage même du héros. Sa beauté l'apparentait à Che Guevara. Gbenye, moins jeune, bouille ronde, petit ventre, barbe broussailleuse, évoquait Fidel Castro. Sans doute, éprouvait-il pour Lumumba la jalousie secrète que le leader cubain n'eût jamais avoué ressentir à l'égard du Che. À l'extérieur de la ville, on avait construit de fraîche date le monument Patrice Lumumba. Sorte de flamme moderne et pompeuse. C'est là qu'avaient lieu les exécutions des Africains, comme quoi cela se méritait d'être massacré devant le monument. L'ambivalence des sentiments des rebelles envers Lumumba éclatait dans cette topologie. Son nom était associé au peloton. « Que pense la Belgique de Lumumba ?» me demanda Gbenye. C'est compliqué. Le temps accomplira son œuvre. Vous verrez qu'un jour à Bruxelles, il y aura une place Patrice Lumumba. Y aura-t-il une place Christophe Gbenye? Qui sait? Répondis-je sans oser lui dire que garder des centaines de Belges en otage et en avoir déjà massacré une trentaine n'était peut-être pas la meilleure méthode pour atteindre cet objectif. Qui a tué Patrice Lumumba? Me demanda-t-il à brûle-pourpoint. Sa question visait uniquement à m'embarrasser. 1000 accusations avaient circulé, aucune n'avait pu être vérifiée. Il faudrait sûrement des années d'enquête pour connaître les coupables. À l'évidence, Gbenye attendait de moi une déclaration arrêtée. Aussi répondis-je, « C'est comme dans le crime de l'Orient Express. L'assassin, c'est chaque personnage. C'est malin! Je ne pourrai plus lire ce livre maintenant, vous m'avez donné la clé. » Je ne pouvais pas lui rétorquer que, dans notre situation, nous savions qui étaient les coupables et qui étaient les victimes. L'information manquante, c'était l'heure du crime, sans oublier son ampleur. Combien y aurait-il de morts? Plus le temps passait, plus nous sentions que le dénouement approchait. Chaque matin, je m'éveillais en imaginant l'intervention de l'armée belge pour le jour même. Cette imminence dont nul ne parlait rendait tout le monde très nerveux. Les rebelles et les otages savaient que ce serait un bain de sang. Nous nous entre-regardions et nous n'avions pas besoin de parler pour poser la question qui nous hantait. Qui mourrait? J'entendis des otages tenir les conversations les plus simples. S'il m'arrive quelque chose, occupe-toi de mes enfants. Si c'était à toi qu'il arrivait malheur, j'en ferais autant avec les tiens. D'accord. Nous savions que nos geôliers risquaient leur vie, eux aussi. Nous nous efforcions de ne pas y penser. Si étrange que cela puisse paraître, nous ne souhaitions pas leur mort. J'avais parfois d'inavouables fantasmes. Gbenyé viendrait nous annoncer la fin de cette mascarade. Nous étions tous libres, nous n'avions jamais cessé de l'être. On nous avait soumis à un jeu métaphysique afin de nous tester. Hélas, le souvenir des otages massacrés sous mes yeux venait poignarder ma rêverie. Je devais lutter aussi contre un sentiment de culpabilité infernale. Rien que de ne pas être mort m'inspirait de la honte. Mon rôle de négociateur ne manquait pas d'ambiguïté. Il me fallait alors me parler avec la dernière dureté. J'avais choisi la diplomatie. Ce que je faisais n'était ni bien ni mal, c'était mon métier. Sans moi, il y aurait certainement déjà eu beaucoup plus de tués. Museler ce démon-là se révéla très difficile. Un surmoi singulier qui prenait la voix de mon grand-père maternel, le général, fut d'un secours incontestable.
« Ces états d'âme sont indignes de toi !»
Les palabres commençaient désormais presque toujours par
« Monsieur le consul, avez-vous des nouvelles de l'intervention de l'armée belge ?»«
Je ne suis au courant de rien. »
« Avez-vous eu un contact avec votre ministère ?»
Ne pas tomber dans le piège. Il m'était arrivé d'avoir la sottise de rétorquer « Vous m'avez posé mille fois cette question, vous savez bien que… » Cela m'aurait valu d'être rossé sans douceur. Peu à peu, je compris que leur procédé, lors de l'interrogatoire policier, relevait d'une rhétorique très précise et donc d'une version du monde particulière. Le temps ici n'obéissait pas à la logique commune. Le propos d'hier ne concernait qu'hier. L'un de mes compagnons avait pu bricoler un poste de radio pendant la nuit. C'était l'obsession des rebelles. Ils nous fouillaient régulièrement de fond en comble à la recherche d'un émetteur fantasmatique. Dans une chambre de l'hôtel, ils surprirent une vieille dame en train de régler le conditionnement d'air. J'intervins juste au moment où ils allaient la tuer, la qualifiant de sorcière fabriquant des postes de radio clandestins. Je n'ai plus eu le moindre contact avec le ministère depuis 4 mois.
Quand aurez-vous une communication avec la Belgique ?
Je ne sais pas.
Lorsque vous aurez ce contact avec vos dirigeants, que leur direz-vous ?
La question comportait tant de pièges qu'il importait de la contourner purement et simplement. Je devins expert en l'art d'éluder. Mes réponses évasives finirent par énerver. On m'envoya au cachot pour 9 jours. Ce fut pour moi la pire des punitions. La solitude m'a toujours envoyé à la tristesse de mon enfance. Je préfère de loin les alarmes de la promiscuité. Dans ma cellule, il y avait un matelas. Je crus d'abord à une faveur, moi qui, comme les autres, dormais à même le sol depuis des semaines. Je déchantai vite. Ce matelas puait au-delà de l'imaginable. Résolu à consacrer mon séjour de reclus à une cure de sommeil, je m'allongeai donc par terre. Les rats s'empressèrent de m'en dissuader. C'est alors que je compris l'odeur atroce du matelas. Par une attention exquise, on l'avait aspergé d'un produit antivermine si violent que je me demandais si je n'appartenais pas à la liste des espèces à éradiquer. Néanmoins, je me couchai sur ce matelas et je me concentrai sur cet effort inouï. Ignorer l'odorat et privilégier le toucher. Au bout de 2 jours, je ne remarquai même plus le remugle. Mon poste de négociateur m'avait tant occupé que j'étais en grave manque de sommeil. Je dormis tout le temps, ne m'éveillant que pour les repas que je m'empressais d'avaler pour empêcher les rats d'y goûter. Libérée, je retrouvais les rebelles avec presque autant de plaisir que les otages. Quel bonheur de voir des gens, de parler avec eux. Je ne me serais pas permis de contredire Sartre et son « l'enfer, c'est les autres ».
Je crois simplement que l'enfer me plaisait. Je n'allais pas m'en tirer à si bon compte. Lors des palabres suivantes, les rebelles m'interrogèrent. « En 9 jours d'isolement, vous avez eu le temps de réfléchir. Quelle est la position de votre gouvernement vis-à-vis de notre République populaire ?» Ce n'est pas dans ma cellule que j'ai eu l'occasion de m'en informer. « Vous êtes consul de Belgique, oui ou non ?» Les palabres évoluaient mal. La teneur de mes déclarations portait l'irritation de mes interlocuteurs à son comble. Le principal orateur finit par donner l'ordre fatidique. « Qu'on le conduise au monument !» Je savais ce que cela signifiait. C'était un honneur pour moi. J'aurais droit à un peloton d'exécution devant le monument Lumumba, comme ceux des rebelles qui méritaient d'être fusillés. Je peux à nouveau m'exprimer au présent. Depuis combien de temps suis-je en face de ces 12 hommes? Mon éblouissement est si profond que je perds la notion de durée. Je la perds activement. J'y mets du mien. Plus je la perds, plus je suis saisie par le vertige de l'imminence. Il n'y a pas de sensation plus forte. Je vais mourir, d'une fraction de seconde à l'autre, je suis aussi terrifiée qu'impatient. La mort est Achille. Je suis la tortue. J'attends mon trépas depuis l'infini. Me rattrapera-t-il? Tout à l'heure, j'ai déploré de mourir en pleine santé. Maintenant, je trouve bon de mourir ainsi. Je vais pouvoir vivre la mort à fond. L'embrasser de ma jeunesse. J'ai enfin atteint l'état espéré. L'acceptation. Mieux. L'amour du destin. J'aime ce qui m'arrive. J'aime jusqu'à l'absolu de mon ignorance. N'est-ce pas la juste manière d'entrer dans la mort? J'entends le vrombissement d'un moteur et le crissement des pneus.
Arrêtez!
C'est la voix de Gbenyé.
On ne tue pas cet homme,
déclare-t-il avec autorité. Je comprends qu'il s'agit de moi. Je traverse un instant de regret. J'étais prêt, je ne sais si un jour je serai aussi prêt. La seconde d'après, une joie sans égale s'empare de moi. Elle est si violente que j'en oublie d'avoir honte. Je suis vivant et je vais le rester. Combien de temps? 2 minutes? 2 heures? 50 ans? Je jure que la réponse n'importe pas. C'est ainsi qu'il faut vivre. J'espère garder cette conscience éternellement. Gbenyé s'approche de moi avec enthousiasme.
Comment allez-vous, monsieur le consul?
Très bien, monsieur le président.
Qu'avez-vous pensé de notre petite plaisanterie?
Votre sens de l'humour sort de l'ordinaire. Gbenyé cherche quel propos serait susceptible de me blesser davantage. Il trouve.
Avez-vous 2 enfants, monsieur le consul?
Oui, monsieur le président.
Combien? Comment s'appelle-t-il?
Un garçon de 2 ans, André, et un bébé-fille, Juliette.
Voulez-vous avoir un 3e enfant?
Cela dépendra de vous, monsieur le président.